Vous allez retrouver Backstage le podcast. Je vous le rappelle, Backstage le podcast, ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien supérieur du son. Et tous deux nous font découvrir les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de leurs podcasts sur leur site backstagelepodcast.com, tout attaché en minuscule, backstagelepodcast.com. Et aujourd'hui, premier épisode de l'entretien consacré au parolier Pierre-Dominique Burgot. Au micro donc de Margot Delpierre sur un montage de Thomas Langlin, l'entretien a été enregistré en août 2019.
Son nom ne vous dit rien, pourtant vous fredonnez ses chansons, ses textes, soyons précis. Pierre-Dominique Burgot est parolier. Il a écrit pour des artistes aussi différents que Johnny Hallyday, Louis Chédid, Gaëtan Roussel et Jennifer. Pour Alain Chamfort, devenu un ami, il a signé Une vie Saint-Laurent et Le désordre des choses, nommé pour la victoire de la musique du meilleur album de chansons en 2019. De son imagination est aussi né Le soldat rose, un conte musical qui s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Qu'est-ce qu'une bonne chanson? Comment devient-on auteur pour Johnny? Avec la crise du disque, un succès comme Le soldat rose est-il encore possible? Pierre-Dominique Burgot nous raconte l'envers du décor.
Backstage, un podcast présenté par Margot Delpierre.
Bonjour Pierre-Dominique Burgot.
Bonjour.
Vous avez écrit notamment pour le patron, on peut dire, pour Johnny.
Oui.
Comment on accède à lui? Quelles ont été les différentes étapes jusqu'à se faire accepter un texte?
Alors il y a toute une étape qui m'échappe, c'est... Pourquoi un moment on m'a demandé à moi, je ne sais pas. En revanche, on arrive à lui par son directeur artistique, en ce qui me concerne, qui est Bertrand Lamblot, qui travaille chez Warner, avec qui j'avais déjà travaillé sur d'autres artistes dont j'ai oublié le nom, pardon. Et à un moment, il m'a demandé de faire des chansons pour Johnny. Alors, pour être honnête, on vous demande souvent pour plein de gens, et ça ne veut pas dire qu'à l'arrivée, ça va au bout. Donc, quand il m'a demandé pour Johnny, l'envie est grande, mais en même temps, on s'énerve pas tout de suite parce que la probabilité que ça n'aille pas au bout est quand même immense. Que quand il me demande à moi, je sais qu'il demande en même temps à 15 personnes, à 20 personnes. C'est juste une première étape. C'est déjà bien qu'on se dise, tiens, la personne qui est en contact avec Johnny me demande si je veux bien faire des chansons pour Johnny.
Donc on vous demande d'écrire un texte et ensuite?
Soit on me demande d'écrire un texte, soit on m'envoie une musique que Johnny a aimée et on me dit, est-ce que tu pourrais faire des mots dessus? On parle en gros de la couleur de l'album, pour que je sache à quoi ça peut ressembler. On me dit s'il y a des choses qu'il ne faut pas aborder. Par exemple, sur le dernier album, on me demandait de ne pas aborder la maladie ou la mort, qui aurait été une possibilité d'être un peu direct sur ce sujet. Mais je dois préciser quand même qu'à l'époque, on a bossé sur l'album. On savait qu'il était malade, puisque c'était public. Par contre, on ne savait pas du tout comment ça allait se terminer, parce que il suivait des traitements à Los Angeles, à Paris... qu'il était en pleine forme, donc on avait toujours l'impression qu'il s'en sortirait. Donc on n'abordait pas ces sujets, mais en même temps, il n'y avait pas de raison de les aborder, puisqu'on ne savait pas qu'il allait mourir cette année-là.
Vous proposez donc plusieurs textes, ça arrive jusqu'aux oreilles de Johnny?
Alors quand il y a une musique, je propose un texte, si jamais ça plaît au directeur artistique, il y a une maquette qui est faite, c'est-à-dire qu'on met mon texte sur la musique, il y a un garçon qui a un peu la voix de Johnny, qui enregistre des maquettes, et inversement, si je propose un texte que le directeur artistique prend, mais il n'y a pas de musique, lui, il envoie un compositeur. Il a un pool de compositeurs, comme il a un pool d'auteurs. Il y a une maquette qui est faite, qui est chantée par quelqu'un qui est un peu la tessiture de Johnny. Et le directeur artistique les présente à Johnny. Donc, et là, c'est des réunions auxquelles je ne suis pas. Donc, je ne peux pas vous dire comment ça se passe, quels sont les... Mais de là arrive, bah écoute, ta chanson, elle est encore dedans. Ou bien ta chanson, elle est plus dedans, il n'a pas aimé. Généralement, on n'a pas trop de pourquoi. Quand il a pas aimé, mais ce que je comprends, parce que c'est difficile de, si à chacun faut donner des raisons, puis après on va dire, ah non, mais moi je trouve pas et tout. Donc c'est voilà, il a pas pris, il a pris, c'est bien. Et puis, alors, tout du long, en fait, il y a un peu de l'insécurité, c'est-à-dire que tout du long, même quand il l'a bien aimé, on sait pas si ça va aller au bout, parce qu'ensuite, il va falloir que la chanson soit réalisée, et puis il va falloir qu'il la chante, parce que jusqu'à présent, il a toujours pas chanté, c'est-à-dire qu'il y a eu la maquette, il va être en studio, et il va la chanter, et il peut encore, ce qui m'est d'ailleurs arrivé sur une des chansons sur le dernier album, où il peut la chanter en studio et puis dire oh « bah non, j'ai pas envie de la chanter » ou « je la chante mal ». Et donc votre chanson qui tout du long était encore là, ben d'un seul coup elle est plus là parce qu'il a pas envie de le faire. Donc tant que l'album n'est pas sorti avec votre chanson, rien ne dit qu'elle va être là. Alors si jamais il aime beaucoup la chanson et tout le monde l'aime bien, il y a quand même peu de chances qu'elle parte. Mais quand c'est une chanson un petit peu ventre mou de l'album et tout, genre écoute, oui ça va, la probabilité qu'elle s'en aille au bout d'un moment, ben, c'est grande.
Mais c'est pas dur de pas avoir de motif de refus?
Non, moi ça ne me dérange pas. avant de faire des chansons, j'ai travaillé dans la publicité. Dans la publicité, on donne des idées, on écrit des idées sur des feuilles toute la journée. Et toute la journée, on se les fait refuser, soit par l'agence dans laquelle on travaille, et la plupart du temps par des clients qui n'en veulent pas pour... Donc moi, j'ai l'habitude de ça, ça ne me vexe pas quand on me refuse une idée. Et aujourd'hui, quand on me refuse une chanson, je me sens pas mis en cause, je me dis pas « Ah, ça veut dire que je suis nul », je me dis « Bon, ça veut dire que cette chanson, soit elle est pas bien, ça arrive, soit elle convient pas à l'interlocuteur ». J'ai jamais envie de pousser la personne à la faire, parce que c'est quand même l'interprète qui, à l'arrivée, va être responsable de la chanson. C'est-à-dire que moi, si je trouve cette chanson formidable, si je veux la pousser à la faire, si jamais j'arrive à le convaincre, et si à l'arrivée, on dit « Ah, cette chanson de Johnny est nulle », si les gens sifflent dans les concerts, j'exagère un peu, c'est quand même lui qui va prendre cette chose, c'est pas moi. Moi, je suis. C'est d'ailleurs l'objet de votre émission, moi je suis dans l'ombre. Donc j'ai tendance vraiment à respecter l'avis des interprètes, l'avis, des interprètes. Et puis bon, il y a tellement d'interlocuteurs et tout, j'ai pas envie d'être en plus un problème. Parce que si jamais on me dit pourquoi il la refuse, je vais argumenter, je vais dire « Ah bah non, pas du tout. » Et puis vous imaginez si jamais il doit faire ça, le directeur artistique, les interprètes, sur 15 auteurs avec qui il travaille, ça va être... Puis bon, normalement, l'interprète, il se connaît quand même. C'est-à-dire que si jamais il refuse la chanson, il y a des raisons pour que ce soit pas juste un caprice.
Ça diminue pas votre confiance en vous ?
Non, mais je vous dis, je pense que c'est parce que j'ai été blindé à cet exercice de me faire refuser des choses. D'autant plus que je suis pas infaillible. Enfin, il y a plein de textes qu'on me refuse et qui étaient pas terribles. Et il y en a qu'on m'accepte et qui sont pas terribles. Et puis il y en a qu'on me refuse qui sont bien. Et puis, ce que je trouve périlleux, puisque vous me parlez de Johnny, c'est un exercice où j'ai pas de contact direct avec l'artiste avant l'enregistrement de la chanson. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que, puisque je ne pourrais pas parler avec lui, j'ai tendance à écrire une chanson que je pense qu'il va prendre. C'est-à-dire de pas prendre de risques. Si jamais il était en face de moi, si jamais on avait une après-midi, si jamais je bossais comme je travaille avec Alain Chamfort, je peux parler avec lui. Je peux dire, écoute, pour moi, je trouve que ce serait intéressant d'aborder ce problème, de le faire comme ça. D'ailleurs, j'ai cette chanson, il peut me dire oui, il peut me dire non, on peut en parler. Là, je sais que je ne lui parlerai pas. Je sais qu'il y aura un intermédiaire entre eux, alors qui sait ce qu'il veut, c'est le directeur artistique qui a choisi une couleur d'album. Mais donc, si je veux que ma chanson sorte, j'ai tendance à faire, entre guillemets, une caricature de chanson. C'est-à-dire, bon, alors, c'est quoi l'univers de Johnny? C'est quoi les mots de Johnny? D'accord, je vois à peu près ce qu'il veut, je peux lui faire. Et quand on regarde les albums, qui sont faits en tout cas par plusieurs auteurs, on a l'impression quand même qu'il y a pas mal de gens qui travaillent comme ça. Alors il y a quelques chansons qui sont un peu différentes, mais sinon, on sent que tout le monde tourne autour un peu de la même chanson, du même univers. Alors c'est pas un hasard, parce que c'est son univers, les États-Unis, la Route 66, le rock. Mais on prend pas le risque de faire autre chose. Moi, il y avait une chanson que j'avais écrite pour Chamfort qui s'appelle « Les micro-sillons sur les rides du visage », qui je pense aurait été pas mal pour Johnny, mais je lui propose pas. Enfin, je lui ai proposé après quand Chamfort l'avait chanté, mais parce que je sais que ce texte n'arrive pas au bout, parce que quelqu'un va dire « Ah ben non, on va pas parler ça, on va pas... » Alors que si on a un peu de temps pour parler, peut-être que je peux lui expliquer pourquoi je propose cette chanson, pourquoi c'est pas mal justement de prendre des problèmes de front. Quand on n'a pas de contact avec l'artiste, c'est un peu le problème qui peut se poser. En tout cas, c'est le mien. Quand je regarde les albums, j'ai l'impression que c'est quand même assez commun, c'est-à-dire qu'on fait la chanson qu'on pense que l'artiste veut, alors qu'au fond, ce qui serait intéressant, c'est de faire la chanson qu'il veut pas. Parce que la chanson qu'il veut, il l'a fait déjà depuis longtemps, donc on la tourne autrement.
Ça vous conditionne?
Oui, après, on pourrait être complètement détaché de tout ça, hein, mais je ne sais pas quelle chanson il refuse, mais j'ai l'impression quand même que chacun rentre dans ce moule-là. Quand je vois la chanson qu'a écrite Vincent Delerme, quand je vois les chansons de Miossec, on a l'impression quand même qu'ils le font bien pour Johnny. Peut-être que Delerme, s'il devait écrire et composer un album de Johnny, il ferait pas les mêmes chansons. Par contre là, lui comme moi, on n'a pas accès à l'artiste, il envoie un texte. On sent que le texte, il s'est dit peut-être ça pourrait lui plaire, mais qu'au fond, c'est peut-être pas le texte qu'il aurait fait s'il avait eu plus d'emprise sur l'album.
Il y a une impression de commande, en fait.
Oui, alors après, ça dépend aussi de la popularité de l'artiste. Quand on demandait quelque chose à Gainsbourg, je pense qu'on voulait du Gainsbourg. Quand on me demande quelque chose, je suis pas sûr qu'on veuille du Burgo, parce que je suis pas sûr que le Burgo, ça existe vraiment. C'est plutôt Burgo qui se fond dans, bon, bah, qu'est-ce que fait Johnny? Alors, j'essaie de trouver les chansons que j'aime bien de Johnny et de voir ce que je peux faire qui est dans ce moule-là. Mais au fond, je continue à penser que ce qui serait intéressant, ce serait de faire quelque chose qu'on n'attend pas de nous. Mais en même temps, c'est pas ce qu'on me demande. Donc,
Et pour les textes que Johnny a acceptés, est-ce que vous avez pu le rencontrer?
Je l'ai rencontré après, quand il a chanté en studio. Et puis surtout, je suis allé à Los Angeles pour des raisons professionnelles, mais pas pour lui. Et puis, on a eu l'occasion d'aller chez lui, de le rencontrer, d'aller boire des coups. Alors, c'était possible parce que j'avais écrit des chansons pour lui, mais c'était pas du tout une ambiance professionnelle, c'était pas du tout pour écrire des chansons, c'était juste, ah bah, puisque tu es à Los Angeles, puisqu'on avait des amis communs qui étaient amis de Laetitia, voilà, on s'est tous vus. Et là, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Mais bon, soyons honnêtes, il a pas grand-chose à me dire, ce que je comprends. Hein. Ai-je quelque chose à lui dire? C'est pas sûr non plus. Il voit pas exactement qui je suis, donc Laetitia, elle fait ça très bien. Elle représente, c'est Pierre Dominique, il a fait ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Il avait fait aussi un dîner à Paris pour remercier pour son avant-dernier album. Je peux pas dire que les relations, que j'avais des relations avec lui. Il a toujours été, lui et son entourage, extrêmement poli et gentil avec moi, ce qui est déjà beaucoup, je trouve. Après, il n'y avait pas grand-chose de plus à attendre, ni pour moi, ni pour lui.
Mais ça paraît un peu étonnant parce que, par exemple, quand on écoute « Te voir grandir », ça a l'air très, très personnel. Et de savoir que, finalement, il n'y a pas eu plus de discussion directe avec lui, tout ça, pour arriver à ce texte-là, c'est étonnant.
Oui, après, on a la chance, ou la malchance, mais là, plutôt la chance d'être avec un personnage dont tous les pans de la vie sont connus. En fait, je le connais sans le connaître. Quand j'ai commencé à travailler pour l'album, j'ai quand même lu plein de choses, enfin lu les chansons qu'il avait faites d'ailleurs pour essayer de pas les refaire, et puis lu les choses qui l'intéressaient, les choses que je trouvais plus intéressantes que d'autres, qui dévoilaient un autre côté de sa personnalité. Et à un moment, j'ai dû tomber sur une interview où justement il parlait de ses filles, mais effectivement, c'est sans le connaître. Après, c'est aussi sa force à lui d'interprète, de faire exister tout ça comme si c'était vrai. Enfin, c'est vrai, mais c'est lui aussi qui la rend touchante, c'est lui qui... Et puis c'est aussi peut-être pour ça qu'elle reste, que pour une qui reste, on a trois qui sont partis, parce que peut-être justement c'était pas touchant, c'était pas comme il fallait, c'était pas...
Des fois dans la presse, quand on pouvait lire des articles sur Johnny, on avait l'impression, en tout cas moi, que on reprochait presque à Johnny de pas être un artiste complet, mais seulement un interprète, parce qu'il écrit pas, parce qu'il compose pas. Est-ce qu'il y a une forme de snobisme en France vis-à-vis du recours aux paroliers?
C'est-à-dire que quand on regarde les immenses artistes, ils sont souvent auteurs, compositeurs, interprètes. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent tout seuls. Ils amènent leurs chansons là où ils veulent. Donc, alors il y en a qui sont, Souchon qui est compositeur, mais il est plus auteur, interprète, et il a trouvé son alter ego avec Woolsey. Mais c'est vrai que la plupart du temps, enfin, je parle des monstres sacrés, Brassens, Brel, Gainsbourg, ils font tout seul. Donc c'est vrai qu'il y a une aura spéciale pour les gens qui font tout seul. Et parfois, moi je le ressens chez les gens qui font tout seul, qui ne prendraient pas la chanson de quelqu'un d'autre, même si elle était bien, parce que, ah oui, mais non, mais c'est important que je fasse tout seul. Et ce que je comprends, il y a une époque où il y avait plein d'interprètes qui avaient recours à des paroliers, compositeurs, on trouvait pas ça vulgaire. Aujourd'hui, il en reste encore quelques-uns. Vanessa Paradis, elle a toujours fait appel à des auteurs et à des compositeurs, même si elle écrit quelques rares chansons. Et ça reste une artiste qui a la cote, qui est très estimée. Camélia Jordana, à ses débuts, c'était une super interprète, vraiment reconnue comme interprète, et qui chantait des chansons qu'elle n'avait pas écrites. Maintenant, il me semble qu'elle écrit les textes. Mais c'est vrai que c'est très rare. Les interprètes qui, la cote, mais qui n'écrivent pas tout seul, il n'y en a pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est une part de snobisme, ou bien est-ce que c'est la vie qui montre que finalement, la plupart des grandes chansons sont quand même écrites par des auteurs, compositeurs, interprètes? Peut-être que c'est une réalité.